19h10 à Washington, c'est l'heure du rendez-vous d'Haïti et des Amériques. Bonjour Michael Ponge.
Bonjour Anne, merci. Basketteur mythique, actrice intergalactique, ce sont aussi deux militants des droits civiques qui viennent de s'étendre. Les hommages s'enchaînent aux États-Unis après les disparitions de Bill Russell et Nichelle Nichols. On va y revenir. Quelles conséquences de la guerre en Ukraine à Cuba ? Gros mangeur de céréales, c'est notre dossier du jour. Et puis bien sûr, on vous retrouvera Benoît Ferrand pour le journal de la première. La prison de Rémire-Montjoly en Guyane, l'une des pires de France, c'est à la une.
Et même la pire en termes de taux d'occupation en ce qui concerne l'incarcération des mineurs, selon les chiffres tout à fait officiels du ministère de la Justice.
A tout à l'heure, Benoît, on vous retrouve dans une quinzaine de minutes. Et bienvenue à tous.
Basketball was a different sport before William F. Russell donned a uniform.
Le basket était un sport différent avant qu'il ne porte l'uniforme. Bonjour Christophe Paget.
Bonjour.
On l'entend là, extrait de la remise de médaille de la liberté par Barack Obama il y a 10 ans à Bill Russell, basketteur de renom. Il vient de mourir à l'âge de 88 ans.
Oui, d'ailleurs l'ancien président a réagi sur Twitter. Aujourd'hui, nous avons perdu un géant. Le Boston Globe reproduit d'ailleurs une photo de Barack Obama remettant en 2011, vous l'avez dit, la médaille présidentielle de la liberté à la légende des Celtics, le gigantesque champion de Boston. Ça, c'est le titre du Boston Globe. Gigantesque par sa taille, 2m08, par ses titres, 11 fois champion NBA en 13 ans, mais aussi parce qu'il fut la première superstar afro-américaine du monde du basket. Un pionnier, souligne une autre star, Michael Jordan, dans le New York Times. Il a préparé le chemin et a été un exemple pour tous les joueurs noirs qui ont fait partie de la NBA après lui. D'autant que, rappelle le Christian Science Monitor, Bill Russell a remporté ses deux derniers tournois comme entraîneur principal. Une première pour un noir dans un grand sport populaire aux États-Unis.
Et en plus de ça, Christophe, eh bien Bill Russell était aussi un ardent défenseur des droits civiques des Afro-Américains.
Pour USA Today, le plus grand accomplissement de Bill Russell, c'est d'avoir été un des héros majeurs des droits civiques, participant entre autres à la marche de 1963 sur Washington aux côtés de Martin Luther King. Né en Louisiane, qui était un des États les plus violents envers les Noirs, Bill Russell a, de sa jeunesse à sa mort, utilisait sa célébrité pour combattre le racisme sans se soucier de qui il se mettait à dos ou des conséquences sur sa popularité, souligne le New York Times.
Pionnière et militante, elle aussi, pour les droits des Afro-Américains, l'actrice Nichelle Nichols, elle également, elle aussi, donc, s'en est allée rejoindre les étoiles.
But I'm not afraid. I am not afraid.
Je n'ai pas peur, dit Nichelle Nichols, je n'ai pas peur, avant d'embrasser son partenaire, un des premiers baisers interraciaux de l'histoire de la télévision, rappelle le site Deadline. Nichelle Nichols jouait le lieutenant Uhura dans la série de science-fiction Star Trek dans les années 60. Elle a aidé à faire évoluer les mentalités à la télévision en montrant une femme noire dans une position d'autorité, analyse le Washington Post. La comédienne Whoopi Goldberg se rappelle avoir, adolescente, hurlé à ses parents de venir voir qu'il y a une femme noire à la télévision qui ne joue pas un rôle de servante, note Variety. La NASA avait d'ailleurs recruté Nichelle Nichols comme porte-parole pour encourager les femmes et les Afro-Américains à devenir des astronautes. Et de fait, la docteur Mae Jemison, la première femme noire à voler dans la navette spatiale américaine, cite Star Trek comme une des raisons qui l'ont poussée à rejoindre la NASA, écrit Deadline. Et là encore, Michael, le Washington Post souligne le rôle de Martin Luther King, conscient de l'importance du personnage d'Uhura à la télévision. Le pasteur a convaincu son interprète de ne pas abandonner le rôle, qui dès la première saison se réduisait de plus en plus.
RFI, the world at your doorstep.
On reste aux États-Unis avec la question à 1000 dollars en ce moment.
Nancy Pelosi, the US House Speaker, will be visiting Taiwan after making a stop in Malaysia.
Question et réponse de CNN. La Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants, est en Asie. On se demande si elle fera un crochet par Taïwan. C'est en tout cas quasi une certitude pour CNN, au risque de fâcher eh bien, un peu plus Pékin, qui veut faire revenir l'île dans son giron. Cette visite, en tout cas, serait perçue, Christophe, comme une provocation par la Chine.
Oui, les États-Unis jouent avec le feu, c'est ce qu'affirme Pékin. Ce dimanche, rapporte le New York Times, le président chinois Xi Jinping a eu son homologue homologue américain au téléphone pendant plus de 2 heures. Mais selon des proches du président, Joe Biden a refusé de demander à Nancy Pelosi d'annuler son voyage par respect pour l'indépendance du Congrès et pour ne pas reculer devant les menaces chinoises. Du coup, toujours selon ses responsables, Nancy Pelosi peut encore changer d'avis, mais cela semble peu probable. Politico, de son côté, résume les réactions européennes à cet éventuel voyage à Taïwan. Les responsables européens renâclent à se positionner dans la dispute. Mais les diplomates reconnaissent le fait qu'il y a un véritable danger, que la situation échappe à tout contrôle. De fait, selon des spécialistes, le président Xi voudra réagir fermement à tout signe d'un soutien américain à l'indépendance de Taïwan, en partie parce qu'il cherchera cet automne à obtenir un troisième mandat à la tête de la Chine.
Et on suivra évidemment cette tournée de Nancy Pelosi. Christophe, à présent, vous nous parlez de l'un de nos confrères du média haïtien Alter Press, de leur journaliste donc, qui a été kidnappé.
Oui, Edner Dessim, enlevé le 17 juillet par des individus armés à Delmas 30, dans la périphérie nord-est de Port-au-Prince, dans une file devant une station de distribution de produits pétroliers, rapporte Alter Press, qui précise « L'inquiétude ne fait que grandir car la famille est dans l'incapacité de réunir la somme exigée ». Le journal parle de 15 jours de silence et d'inaction des autorités. Depuis ce spectaculaire rapt collectif, de nombreuses personnes ont été kidnappées le même jour. Alter Press rappelle que de janvier à fin juin 2022, selon l'ONU, 680 personnes ont été enlevées dans la capitale haïtienne.
Et bien sûr, nous envoyons tout notre soutien aux équipes d'Alter Press et à la famille d'Edner Dessim. Merci Christophe. Au Guatemala, là c'est le rédacteur en chef du journal El Periodico, José Rubén Zamora Marroquín, qui a été arrêté par les autorités à son domicile. En fin de semaine dernière, il est accusé de blanchiment d'argent, ce que dément fermement Lucy Chai, la directrice adjointe du journal.
Le parquet ment quand il affirme que cette arrestation n'est pas liée à son travail journalistique. Si c'était vrai, pourquoi n'avons-nous pas pu travailler au sein du journal vendredi ? Ce n'est pas seulement la maison de ce journaliste qui a été perquisitionnée, mais aussi la rédaction du journal El Periodico. Les salariés n'ont pas pu sortir des locaux jusqu'à samedi matin et le journal n'a pas pu être imprimé normalement. Nous avons dû faire appel à une autre imprimerie. Tout le monde sait ici que nous avons publié de nombreuses enquêtes au sujet de la corruption au sein du gouvernement actuel et des gouvernements précédents. Et c'est ce qui dérange l'exécutif aujourd'hui.
Des propos recueillis par Hugo Passarello. RFI. Un soulagement pour le monde, selon Kiev. Les déclarations sont enthousiastes aujourd'hui pour féliciter le départ d'un premier bateau de céréales ukrainien. Il a quitté ce matin le port d'Odessa, conformément aux termes d'un accord international. Première opération d'exportation d'une petite partie des millions de tonnes de céréales bloquées par la Russie dans les ports de la mer Noire depuis le début de la guerre. Un espoir pour les pays dont la sécurité alimentaire dépend de leur approvisionnement en céréales. C'est le cas, par exemple, de Cuba. L'île ne produit pas de blé et pourtant elle en consomme massivement. Alors, quelles ont été les conséquences de ces 6 premiers mois de guerre ukrainienne pour le pays ? Sylvie Noël a posé la question au doctorant Jérémy Doniol de l'université Reims-Champagne-Ardenne.
D'abord, il faut rappeler que Cuba importe 70% de ce qu'elle consomme en termes d'alimentation. En ce qui concerne les céréales, en 2020, l'île a importé 900 millions de dollars de céréales. Depuis 2021, les prix ont augmenté de 35%. Et donc, depuis la crise ukrainienne, effectivement, ça a vraiment mis une pression supplémentaire sur l'île qui est déjà en manque chronique de devises. Et il faut rappeler quand même qu'il y a eu plusieurs crises qui se sont succédées. L'État cubain attendait de 2022 que ce soit l'année la plus calme, que le tourisme reprenne, etc., après le Covid et la grosse chute de devises que ça a entraîné pour eux. Et finalement, ça n'a pas du tout été le cas.
Quelle est la situation actuellement sur le marché du blé pour Cuba ?
Pour importer son blé, évidemment, Cuba a besoin de dollars. Elle est dans une situation compliquée du fait de l'embargo des États-Unis. Puis la crise du Covid, où on a eu une chute des importations vraiment très importante, puisque le tourisme s'est vraiment effondré. En 2019, on avait 2,6 milliards de dollars de recettes. En 2020, ça tombe à 1 milliard et en 2021, seulement 560 millions. Donc c'est vraiment très important.
Si on compare à l'année dernière, Cuba a importé moins de blé.
Eh bien non, parce que c'est un besoin qui est assez incompressible finalement pour nourrir la population. Donc là, l'USDA estime pour 2022-2023 que l'île va importer 700 000 tonnes de blé. En comparaison, l'année dernière, c'était 500 000 tonnes. Donc on reste sur des besoins vraiment très importants.
Vous le disiez à l'instant, Cuba a une perte de devise. Donc le gouvernement cubain a-t-il encore les moyens d'allouer des ressources financières à l'achat du blé dont le prix a augmenté sur les marchés ?
Ça devient très compliqué pour eux. Il y a la volonté à Cuba de faire des changements pour que l'économie soit un peu moins dépendante de l'État. Ça pourrait diminuer un peu le fardeau économique que ça représente. Il y a eu un déficit vraiment record de plus de 500 entreprises publiques cette année. Et il y a vraiment eu la volonté du nouveau président cubain Miguel Díaz-Canel de vouloir pousser à la création de petites et moyennes entreprises qui ont été légalisées il y a très peu de temps à Cuba. Donc on a une série de petites réformes à Cuba qui visent à donner un petit peu plus d'importance au secteur privé, comme on l'avait fait lors de la période spéciale au début des années 90, après la chute de l'URSS.
Dans cette période de crise, est-ce que Cuba a reçu de l'aide de certains de ses alliés ?
Il y a eu un bateau qui est parti de la Russie, effectivement, en avril, où on parle de 20 000 tonnes de blé. Donc c'est quand même relativement peu. C'est un don évidemment très politique hein, qui vient aussi remercier Cuba vis-à-vis de son soutien à la Russie depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, notamment à l'ONU. Mais c'est un don qui est important en symbole quand même, qui a été très compliqué puisque avec le déclenchement de la guerre en Ukraine et les sanctions contre la Russie, il y a eu beaucoup de difficultés pour payer l'armateur qui a été bloqué au large de Cuba pendant quelques temps. Ça a fini par arriver. Et puis évidemment le Venezuela qui est en grande difficulté. Et ça se répercute beaucoup sur l'économie cubaine, mais il y a toujours cet accord de Petrocaribe qui permet à Cuba d'obtenir du pétrole à des prix amicaux, ce qui permet de limiter l'impact de la montée des prix du pétrole.
Est-ce que vous diriez que l'approvisionnement en blé, c'est une clé de la stabilité, voire de la survie du régime cubain ?
L'alimentation en général, ça l'est. Le blé, c'est très important également pour les Cubains, ils en mangent vraiment beaucoup. Je me souviens que quand j'y suis allé en 2018, j'ai rencontré un professeur cubain qui m'a dit pour commémorer le fait que la révolution tienne encore aujourd'hui, ce n'est pas une statue de Fidel Castro qu'il nous faudrait, c'est une statue de pizza. Signe, symbole que en fait, c'est vraiment majeur dans l'alimentation des Cubains, c'est très très important.
Alors, les conséquences de la guerre en Ukraine sur le marché des céréales, en fait, c'est une double peine, on va dire, d'une certaine façon pour Cuba, parce qu'il faut quand même qu'on le rappelle ici, il y a aussi les effets de l'embargo américain depuis 1962, et c'est un embargo commercial et financier qui fait que Cuba ne peut pas s'approvisionner auprès des États-Unis, qui sont l'un des gros producteurs de céréales.
Tout à fait. Il faut quand même préciser qu'il y a une exception à l'embargo pour les produits médicaux et les produits alimentaires, mais dans les faits, c'est très compliqué à cause des problèmes assurantiels et bancaires, puisque Cuba est interdit bancaire. Je voulais juste dire également que c'est l'embargo le plus vieux au monde et qu'il continue d'être très sérieusement appliqué contre Cuba. Barack Obama avait parlé de le lever, il n'y est pas parvenu. Il avait réussi à moins le mettre en application sur certains aspects uniquement et pas sur tous, notamment les remessas, les devises que les Cubains, notamment aux États-Unis, renvoient à leur famille à Cuba. Mais Donald Trump a vraiment renforcé l'embargo depuis. Les remessas se sont effondrés. C'était la première source de devises de Cuba, avec le tourisme juste derrière.
C'est une condition de survie pour un certain nombre de Cubains.
Effectivement.
Alors justement, en raison de cet embargo, Cuba s'est tourné vers l'Europe sur les dernières décennies pour son approvisionnement en céréales et notamment en blé. Et alors j'ai appris dans votre livre, hein, Géopolitique de Cuba, que le blé français a représenté jusqu'à 90% des importations de l'île.
Effectivement, la France fait partie des plus grands exportateurs de blé chaque année dans le monde. Et aujourd'hui, on est plutôt autour de 50-60%, mais on ne voit pas forcément de raison pour que ça continue de diminuer sur les années qui viennent. Mais effectivement, il y a une volonté quand même de Cuba de
diversifier
ses partenariats, puisque c'est vraiment, comme on l'a dit, c'est stratégique comme marché. Avant, on avait 90% du blé qui était consommé à Cuba qui venait de la France. Aujourd'hui, c'est plutôt 50%. On a la Russie qui a pris une part, etc.
Jérémy Doniol, auteur de Géopolitique de Cuba, c'est aux éditions L'Harmattan. Il répondait à Sylvie Noël. Cuba, où au moins trois manifestations ont eu lieu le week-end qui vient de s'écouler contre les coupures d'électricité sur l'île. Les habitants se sont retrouvés pendant plus de 10 heures sans courant dans certains quartiers de La Havane. Les autorités ont annoncé officiellement qu'il y aurait des coupures d'électricité de 4 heures seulement par jour à partir de cette semaine dans la capitale cubaine. Enfin, nous vous en parlions la semaine dernière. Déjà, ça faisait la fierté du président Obrador. Le Mexique vient de récupérer plus de 2500 objets archéologiques en provenance des collections d'une seule et même famille espagnole. Des poteries, des pierres, des outils et j'en passe. Après avoir été expertisées, toutes ces œuvres sont à présent exposées au public au musée du Templo Mayor à Mexico. Gwendolina Duval est allée y faire un tour.
Cette figure au centre représente Ehecatl, le dieu du vent.
Devant les ruines du Templo Mayor, la guide Irina Rodriguez détaille à une famille venue du Sinaloa la centaine d'objets exposés dans trois vitrines.
C'est fabuleux que, petit à petit, on continue de récupérer tout ce patrimoine culturel. En tant que Mexicaine, je me sens très heureuse de pouvoir observer ce patrimoine que sinon je n'aurais peut-être jamais vu dans ma vie.
Récupérer les pièces qui font partie de notre histoire, c'est une manière de nous rapprocher de nos origines, notre histoire préhispanique.
Le Mexique mène une politique intensive pour récupérer son patrimoine vendu sur les marchés de l'art ou comme ici, auprès des collectionneurs privés, pour le plus grand plaisir de cette visiteuse.
Nous avons été victimes d'un pillage. Nous devons récupérer ce qui est à nous, car ce patrimoine culturel appartient au Mexique, et non à l'Espagne, ou la France, ou n'importe quel autre pays.
Ces objets viennent du bassin de Mexico et de différentes époques, explique Diego Prieto Hernandez, directeur de l'Institut national d'anthropologie.
Ce sont des pièces de tout petit format, mais d'une grande valeur.
Trois autres objets issus de cette donation anonyme seraient des pièces équatoriennes datant du IIe siècle avant notre ère. Après expertise, elles devraient être à leur tour rendues à leur pays d'origine. Gwendolina Duval, Mexico, RFI.
Mexico, où il est 8h26.
Le journal de l'Outre-mer.
Avec vous, Benoît Ferrand, bonjour.
Bonjour, Mickaël.
On est en Guyane, on parle de la prison du centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly avec un taux d'occupation de 165%. Cette prison fait figure en tout cas dans le peloton de tête des pires prisons de France.
Et oui, il est même leader, si l'on peut dire, en ce qui concerne l'incarcération des mineurs, des chiffres qui figurent noir sur blanc dans le dernier rapport du ministère de la Justice sur l'état des personnes incarcérées. Patrick Clark.
Le centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly est la pire prison de France pour les mineurs. Le taux d'occupation est de 136,4%. Conséquence, de nombreux matelas sont au sol et donc un mineur sur quatre n'a pas de lit. L'établissement qui fait autant est celui de Marbonneville à Lyon avec un peu plus de 133%. 57 femmes sont pour l'heure incarcérées chez nous pour 55 places à Ducos en Martinique et 118 pour 32 places. Régulièrement, les syndicats dénoncent la surpopulation du centre de Rémire-Montjoly. Dans les faits, cela se traduit ainsi. Au centre de détention, 342 personnes sont écrouées pour une capacité opérationnelle de 320, soit donc une densité carcérale de 106%. Là où les chiffres sont les plus significatifs, c'est en maison d'arrêt. 489 détenus pour 296 places, soit une densité carcérale de plus de 165%. L'autre territoire ultramarin qui a une telle concentration, c'est Mayotte avec la prison de Magicavo.
Le port, le transport, la vente de pistolets d'alarme et de signalisation interdites à compter d'aujourd'hui sur l'ensemble du territoire de la Martinique. Décision annoncée quelques jours avant son départ vers sa nouvelle affectation par le préfet Stanislas Cazel. Ronan Bonnec.
Il s'agit d'une décision prise quelques jours avant l'annonce du départ de Stanislas Cazel, sa dernière décision pour endiguer la prolifération d'armes à feu et la hausse inquiétante des faits de délinquance sur l'île. À compter de ce 1er août 2022, les pistolets d'alarme et de signalisation sont interdits. En effet, ces armes font parfois l'objet de modifications pour être utilisées avec de vraies munitions, comme en atteste la saisie d'une trentaine d'armes transformées en avril 2022 lors du démantèlement d'un atelier clandestin par la gendarmerie nationale. Elles peuvent également être exhibées ou utilisées pour des des menaces en les faisant passer pour des armes de poing. Sont donc interdits le port et le transport des pistolets d'alarme et de signalisation, mais aussi leur vente et cession. Cette interdiction, qui se termine le 31 décembre 2022, fera l'objet d'une évaluation pour une prolongation éventuelle au-delà de cette date. Cette interdiction vient compléter l'arrêté du 5 juin 2019, interdisant le port et le transport visible d'armes factices dans les lieux publics.
Et ça se passe donc en Martinique. Bon après-midi, Mickaël. À demain.
Merci Benoît Ferrand, à vous et aux équipes de La Première. À demain, on se retrouve évidemment comme chaque jour. Merci à Hélène Avril qui est à la réalisation de ce rendez-vous d'Haïti et des Amériques. Très bonne journée à tous.
Rejoignez la communauté de RFI sur les réseaux sociaux. Sur nos pages Facebook, vous pouvez suivre, commenter l'actualité et dialoguer avec vos animateurs préférés. Restez aussi connectés avec nous sur Twitter et découvrez nos dernières images sur le compte Instagram de la Radio Mondiale.